journal est présenté par Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. De nouvelles voix ce matin dans la polémique sur le burkini et ses affaires de femmes qui disent avoir été verbalisées pour un simple port du voile sur des plages. L'écologiste Cécile Duflot alerte ce matin dans les pages de Libération sur le risque d'une guerre de tous contre chacun en France. De son côté, le député Les Républicains Éric Ciotti apporte son soutien aux policiers. Il dénonce également les lâchetés permanentes de l'exécutif face au communautarisme, climat électrique dans lequel le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, doit trancher aujourd'hui et dire si l'arrêté municipal anti-Burkini pris à Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes est légal ou non. 400 millions d'euros, c'est ce que pourrait coûter la fermeture de Fessenheim à l'État. La centrale nucléaire du Haut-Rhin doit fermer à l'horizon 2018. C'était une promesse de campagne de François Hollande. Et un accord a finalement été trouvé hier entre EDF et l'État. 100 millions d'euros d'indemnisation pour l'électricien, selon le gouvernement. Mais la facture risque d'être beaucoup plus salée, Willy Moreau.
Le montant de l'accord pourrait atteindre au moins 400 millions d'euros, selon une source proche du dossier. Au moins, car une partie variable s'ajouterait à cette somme. Elle comprendrait notamment la prise en charge du personnel et dépendrait du coût de l'énergie. Pour l'instant, le montant n'est pas déterminé, mais à terme, la transaction pourrait dépasser le milliard d'euros. C'est 4 fois moins que la somme estimée par l'Assemblée nationale en 2014, mais c'est beaucoup plus que l'indemnisation proposée en mai par l'État, 80 à 100 millions d'euros. De son côté, le ministère de l'Énergie, resté injoignable hier après-midi, n'a pas confirmé. Cet accord vise à dédommager EDF du manque à gagner par la fermeture anticipée de la centrale, mais les modalités restent floues. Les syndicats qui refusent la fermeture de Fessenheim dénoncent une gestion opaque depuis l'arrivée du président d'EDF Jean-Bernard Lévy en 2014. Serge Gianorsi, délégué FO du syndicat central d'EDF, affirme avoir appris la signature de l'accord par la presse. Un accord politique, selon lui, alors que l'élection présidentielle se tient dans 9 mois. Des discussions sont en cours entre les syndicats pour mettre en place prochainement des actions. Ils espèrent annuler cet accord avant que le comité central d'entreprise rende son avis en automne. EDF, de son côté, promet de suivre le calendrier du gouvernement et compte entériner la proposition avant la fin de l'année. La fermeture de la centrale est prévue avant la fin 2018, date à laquelle l'EPR de Flamanville devrait être mis en service.
En Italie, des dizaines et des dizaines de secours continuent de fouiller des tonnes de décombres pour tenter de retrouver d'éventuels survivants au séisme qui a frappé le centre de l'Italie hier. Plus de 24 heures après ce tremblement de terre, le dernier bilan fait état de 247 morts. 4 ans de négociations et finalement un accord de paix trouvé cette nuit entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC. Le président Juan Manuel Santos doit maintenant soumettre le texte au peuple colombien lors d'un référendum avant d'en finir avec 52 ans de guerre civile. Les armes chimiques utilisées dans le conflit en Syrie, les Nations Unies accusent précisément ce matin le régime de Bachar el-Assad d'être responsable de 2 attaques au gaz de chlore en avril 2014 et mars 2015. Le groupe État islamique aurait lui utilisé du gaz moutarde en août dernier. La Syrie, où les djihadistes du groupe État islamique ont été mis en déroute dans la ville de Jarablus à la frontière turque, c'est justement Ankara qui a lancé l'opération Bouclier de l'Euphrate sur le sol syrien, avec le soutien de Washington. Pour le chercheur Jean Marcoux, il s'agissait également de dissuader les combattants kurdes de s'accaparer une zone de plus, ce qui leur aurait donné une continuité territoriale à la frontière syro-turque.
Ce n'est pas une offensive directe contre les Kurdes, c'est une offensive qui vise néanmoins à dissuader les Kurdes de prendre position sur la rive occidentale de l'Euphrate. Lors de l'offensive sur Manbij qui a eu lieu il y a quelques jours, les Turcs avaient accepté en réalité que les Kurdes participent à cette offensive. Et ils ont négocié avec les États-Unis l'idée que les Kurdes ne devaient pas aller plus loin. Donc je vois ça plutôt effectivement comme une sorte de prêté pour un rendu. C'est quelque chose, si vous voulez, qui a été négocié avec les États-Unis. Je ne pense pas que ce soit une décision que les Turcs aient prise d'eux-mêmes. Depuis longtemps, les Kurdes du PYD ont conquis au nord de la Syrie une zone d'influence très importante qui s'appelle le Rojava, mais qui est séparée en 2 entités. Une entité majeure à l'est et puis une petite entité qui est Afrin. Et entre ces 2 entités, il y a une enclave importante où se trouve à l'heure actuelle à la fois l'État islamique et les forces de l'opposition syrienne. Donc, l'affaiblissement de l'État islamique a toujours inquiété la Turquie parce qu'elle redoute effectivement que les Kurdes ne prennent position sur la rive occidentale de l'Euphrate et relient en fait leurs deux possessions, ce qui ferait que finalement la frontière syrienne pour la Turquie deviendrait une frontière kurde, et je crois que c'est ce qui se joue à l'heure actuelle.
Le chercheur Jean Marcoux, interrogé par Nabila Hamel. Se préparer à la guerre ou à une catastrophe naturelle. En Allemagne, c'est une première depuis la guerre froide. Les autorités appellent la population à faire des réserves d'eau et de nourriture. La correspondance à Berlin de Cyril Sauvageau.
2 litres d'eau par jour et par personne, des réserves de nourriture, de médicaments, de l'argent liquide ou encore des piles électriques et des lampes de poche, la liste est précise et détaillée. Comme au temps de la guerre froide, chaque citoyen allemand est invité à faire ses propres réserves pour tenir 10 jours jusqu'à l'arrivée des secours en cas de catastrophe majeure. Pour le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, accusé d'agiter les peurs après les attaques terroristes de juillet, il ne s'agit de rien d'autre que d'être prévoyant.
Quand vous partez en voyage à l'étranger, on vous conseille souvent de prendre une pharmacie de voyage au cas où vous ne trouviez pas de médecin. Et bien là, c'est la même chose. Dans l'éventualité d'une panne d'électricité géante, d'une pénurie alimentaire ou dans toute autre situation grave, il s'agit de pouvoir se prendre en charge soi-même.
Ce plan de défense civile vise également à mieux coordonner le travail des services publics et des opérateurs en cas d'urgence. Hôpitaux, pharmacies, banques ou fournisseurs d'électricité, tous seront appelés à renforcer leurs procédures. Entre la menace terroriste et les bruits de bottes de la Russie de Vladimir Poutine, l'Allemagne ne se sent plus tout à fait en sécurité. Signe de cette inquiétude, le budget et les effectifs de l'armée vont être revus à la hausse pour la première fois depuis la réunification.
Cyril Sauvageau à Berlin pour France Culture. La chancelière allemande Angela Merkel en visite à Prague aujourd'hui. Elle doit rencontrer le premier ministre tchèque. Au menu des discussions, les quotas de répartition de réfugiés dans l'Union européenne. La République tchèque y est opposée, comme les autres pays du groupe de Visegrad, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie. Ces 4 pays qui entendent bien peser dans la refonte de l'Union européenne après le Brexit. L'analyse de Jacques Rupnik, spécialiste de l'Europe centrale, directeur de recherche au CERI, le Centre de recherche internationale.
Ils se préparent ensemble pour le sommet de l'Union européenne qui doit avoir lieu début septembre à Bratislava, sous la présidence slovaque. Leur principale idée, c'est que ce que le Brexit suggère, c'est rapatrier un certain nombre de pouvoirs au niveau des États. L'Union européenne, elle fait beaucoup de bonnes choses, entre autres, ils sont grands bénéficiaires des fonds structurels que redistribue l'Union européenne, rien que la Pologne, 100 milliards dans la période budgétaire actuelle. Donc, ils ne feront rien pour faire une sortie de l'Union européenne. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est puisqu'il y a redéfinition du projet européen, eux, ils veulent peser dans le sens d'une rapatriation d'un certain nombre de pouvoirs vers les États membres, confier à l'Union européenne des tâches essentielles, la première étant protection des frontières extérieures. C'est la plus grande faillite de l'Union européenne à leurs yeux. Schengen a implosé en Grèce et avec le geste humanitaire de Mme Merkel. Il est temps de réparer les dégâts. En gros, c'est ça leur propos. Il s'agirait donc de donner pas seulement des gardes-frontières européens, mais une armée européenne, une force armée qui serait capable de protéger cette frontière.
Le chercheur Jacques Rupnik, interrogé par Thomas Schoner. Le temps de ce jeudi, toujours aussi chaud, avec 37 départements placés en vigilance orange pour la canicule. Cet après-midi, il fera entre 24 et 38 degrés dans le pays. Merci beaucoup à Brice Garcia et Yacine Bouzard, avec qui les journaux ce matin ont été préparés. Rendez-vous à 12h30 pour le prochain journal de la rédaction avec Ludovic Piétenu.